Bruno Gore zuekin gitutzu egun hun. Pascal Txerberoz libru bat izkibatu duzu, libria ipatu gabe mentuz si haunbuia prezentatzen ahalduzi hau tai.
Donc je m'appelle Bruno Gore, moi je suis le fils, le cinquième enfant de Jean Gore. Jean Gore, mon père, a été directeur de l'usine Cherbero de 1934 à 1954. Cette usine à l'époque appartenait à Julien Cherbero et Jacques Gore, mon grand-père, qui était marié avec Marie Cherbero. Et cette usine avait été créée en 1871, qui était d'abord un petit atelier d'espadrilles, par Pascal Cherbero, qui est donc mon arrière-grand-père. Donc, le point de départ de mes recherches, alors, dans ma famille, tout se dilue dans le temps, et personne ne s'y était vraiment intéressé. Il se trouve que le hasard va faire qu'en 2007, je vais découvrir un inventaire de l'usine de Pascal Cherbero, daté de 1883-1898, et c'est ça qui va me faire démarrer. Il y était joint à côté deux gros dossiers contenant des factures, des courriers familiaux, des tas de choses. Donc là, j'ai commencé à faire d'abord des recherches généalogiques pour essayer de tout cadrer, parce qu'on a raconté notamment un historien qui s'appelle M. Viers, qui était venu dans les années 59-60 et qui a écrit un livre qui s'appelle Mollion-Lichard, la population et l'industrie. Un prof d'histoire de faculté. Donc quelqu'un qui a été bardé de diplôme est venu faire une grosse recherche. Mais avec ce qu'il n'avait pas à l'époque, d'abord Internet n'existait pas, il n'avait pas accès aux archives notariales et il n'avait pas accès, bien entendu, aux archives des usines, notamment celles des archives Cherbero, puisque l'usine Cherbero a brûlé en 1954 et quand il est arrivé, il ne restait à Mollion. Il y avait un petit atelier Gore qui s'était mis en fonction, mais le seul qui aurait pu véritablement parler de Pascal Cherbero, c'était mon père Jean Gore, et qui n'a pas été interrogé, on a préféré interroger quelqu'un d'autre. Donc, il a écrit un livre, et dans ce livre, bon, on résume vraiment en quatre lignes, pas en quatre lignes, mais en dix lignes, la vie de Pascal Cherbero, et ça m'avait un petit peu chagriné, parce que je trouvais très drôle qu'on raconte qu'un petit garçon, enfin qu'un homme, arrive de Barcus avec une charrette et un âne, alors qu'il était né à Mollion, à la Haute-Ville. Ça, tout le monde pouvait le savoir, c'était facile à trouver. Et il était né à la Haute-Ville, donc c'est un Mollionnais, c'est son père et sa mère qui sont venus habiter à Mollion, et qui ont habité dans une maison qui est tout à fait en haut de la côte, qui est à côté, qui s'appelle la maison Bella Spectenea, qui était la maison où est né le chevalier de Bella, tout à fait en la côte de la ville, une maison qui n'existe plus, à côté de la grosse maison avec la tour blanche. Et donc lui, Pascal Cherbero, il est né là, il est allé à l'école de la haute ville. Ses parents ont un petit peu plus tard acheté la maison aux arcades, qui est devant le fronton de la haute ville, donc la jolie maison qui est là. Ça a été leur maison. Parce qu'ils avaient touché un petit peu d'argent de l'héritage de Cherbero de Barcus qui traînait depuis perpète et qui va durer pendant 15 ans ou 16 ans. Ils vont très très longtemps avant de toucher l'argent. Donc lui, Pascal, il fera ses études là. Alors là, je suis pas dans la légende comme il a été raconté partout, je suis plutôt dans les hypothèses. Peut-être, mais si on peut me dire, machin. Je pense qu'il est allé au collège à Mollion parce qu'il a fait des études. Quand on voit la manière dont il écrit, quand on voit les courriers qu'il fait, quand on voit ce qu'il a fait après, je pense qu'il a quand même un certain niveau d'études. Il a très certainement été, comme il est raconté, forgeron. Alors, est-ce qu'il a été forgeron maréchal Ferrand en apprenant avec un oncle qu'il avait à Barcus, qui était forgeron maréchal Ferrand, lui? Et il disparaît pendant un temps et il revient à Mollion. Donc tout ça, c'est des actes notariés que je trouve.
Est-ce que l'histoire va te contacter dans la famille, dans le rôle?
Du tout. Personne ne savait rien et j'apprends tout à mes cousins, cousines, oncles, enfin, personne ne savait rien. Donc tout ça, c'est des actes notariés. Ces actes notariés racontent qu'en 1864, 70 ou 71, il revient à Mollion parce qu'il a dû recevoir un courrier de Mollion lui indiquant que son père avait... Alors moi je pense que c'est une attaque parce qu'il ne peut plus se servir de sa mère, donc il a dû faire une attaque très certainement, et il revient pour aider ses parents. Son père ne peut plus travailler, sa mère est marchande de fruits, ne sait pas lire, ne sait pas écrire. Il revient, il va s'installer rue Victor Hugo en vendant cette maison. Il va s'installer rue Victor Hugo, certainement à côté, là où il y a le café Carlos maintenant. Enfin, il y avait le café Carlos à l'époque, dans cet endroit-là à peu près, qui ne s'appelle pas rue Victor Hugo, bien entendu, puisque Victor Hugo n'était pas né. Et donc, il construit son premier atelier là, et il va louer une forge à un type qui s'appelle Dulouis. Et dans les actes notariés, moi, ce Dulouis, il est sandalier depuis les années 1855-1860. Et je pense que c'est avec lui qu'il a appris le métier, ou peut-être avec son père, parce qu'à l'époque, à Mollion, en 1845-1850, il commençait à y avoir des petits sandaliers qui travaillaient chez eux et qui vendaient soit ailleurs, soit à Bayonne, soit à Pau, par l'intermédiaire peut-être des Béguerie, par l'intermédiaire des gens comme ça. C'est tout à fait le début de la sandale, de l'espadrille.
Bah, tu te suis jadé une usine à son maïté, d'où est-ce
Il n'y a pas d'usine, hein. Non, du tout. Hein. Les usines, c'est après. Les usines, ça va être à partir des années 1880, mais qui ne sont pas véritablement des usines. Là aussi, je suis prêt à être démenti, mais ça, j'affirme. Ça va être Pascal Cherbero qui va être le détonateur des usines, parce que c'est lui qui va croire à l'électricité, à la capacité de l'électricité. Parce que le meunier tchégoïen, en 1889-90, par là, va se servir du moulin de Montréal, dont il est propriétaire, il va y mettre un alternateur, il va faire un peu d'électricité, qu'il va vendre à Moulin, à la mairie. La mairie va lui faire un contrat. Alors, c'est une petite centrale, elle fait 30 chevaux, de quoi alimenter les lampadaires.
C'est le début de l'électricité.
C'est le début de l'électricité à Moulin, qui sera une des premières villes électrifiées. Au Oloron, et c'est peut-être un petit peu avant, enfin, bon, bref, tous ces moulins qui étaient sur le Gave à l'époque vont de Hendaye jusqu'à Collioure, là-bas de l'autre côté, tous vont petit à petit être électrifiés et favoriser l'expansion de diverses industries, notamment en Ariège, le travail du cuir, enfin, tout ça, ça va étager. Et de l'autre côté, du côté de Perpignan, là aussi, les espadrilles, puisqu'on va faire des espadrilles de ce côté-là aussi.
D'accord.
Voilà. Alors moi, je raconte dans mon livre, c'est cette histoire, c'est les débuts de l'espadrille à Moléor, l'histoire de Cherbero qui va arriver ici, et après je repars sur, puisque quand on tire une ficelle on trouve une pelote au bout, je vais raconter l'histoire mondiale de l'espadrille, c'est-à-dire d'où ça vient en réalité. Alors ça, c'est pas moi qui le trouve, hein. Moi, je fais des recherches, ça a déjà été raconté quelquefois, mais j'ai un peu fouillé.
D'accord.
Et donc on va partir des pharaons égyptiens, notamment ça c'est, comment il s'appelle, monsieur Erekart de l'usine Prodiso, qui m'avait raconté qu'il voyage beaucoup, et qui m'avait raconté qu'il avait photographié au musée du Caire une semelle d'espadrille qui ressemblait tout à fait à celle qu'il avait fait.
Ça existait déjà.
Ah, tout à fait, puisque ça existe chez les pharaons, ça existait. J'ai trouvé plus tard que ça existe chez les romains, puisqu'à Herculanum, donc Pompéi, on a trouvé pour les chevaux, on faisait des semelles exactement faites de la même manière que maintenant, c'est-à-dire une tresse, une planche en bois, des clous pour faire exactement la forme exacte. Et on a retrouvé la planche en bois, les clous, parce que bien entendu, et les machines qui ont été fossilisées et qui n'ont pas été utilisées.
Ordinaireiten zuez partina spaldiko oskibat dela, eta ordinaireiten aldeikusu Pascal Cherberok zer ikarridin ez partinaï.
Alors ce qu'il a amené à l'espadrille, c'est que lui, à l'inverse de ce qui se fait peut-être maintenant, c'est que lui, il a cru à la mécanisation. C'est-à-dire qu'à un moment... le moulin Echegoya ne fournit que 30 chevaux de puissance, et lui il va décider de construire sa propre centrale. Lui ce qu'il fait, lui il va croire à la mécanisation, et donc il va capter l'électricité, adapter une turbine là-dessus qui fera 100 chevaux, ce qui est énorme, hein, c'est 3 fois donc, le machin, en prévoyant d'en mettre une autre qui fasse 100 chevaux de plus, tout ça pour faire tourner les machines. Il est extrêmement ami avec un supervielle qui est un ingénieur français qui va en même temps que lui fabriquer une filature de jute à Renteria, donc côté basque espagnol. Il a un très bon rapport avec lui, et cet ingénieur va lui mettre au point des transmissions qui vont permettre de faire tourner tout ce qui est machine à coudre, les singères, comme bien connu de votre grand-mère, et donc toutes ces machines à coudre singères, et il va les coupler, si vous préférez, il y a des courroies, des machines, et toutes les machines vont être tournées à ça. Et c'est lui le premier qui va acheter des machines black. Alors donc ces machines black, c'est des machines qui viennent de la cordonnerie, et qui vont faire des coutures pour coudre la semelle par-dessus, si vous préférez. C'est lui qui va se lancer là-dedans. C'est vraiment le précurseur. Hein. Il n'y a personne d'autre qui va le machin, mais c'est le précurseur au niveau français. Hein. Il bataille pour ça.
Beada edo beste industrialekine alkar laguntzen dizie gaisa joatzeko.
Du tout. Ils sont en très forte concurrence. Et on le voit dans ce que je trouve, si vous préférez. Il est assez mal accepté au départ, parce que c'est le petit garçon de la haute ville qui n'est pas du tout bourgeois. Chaque fois qu'il gagne un sou, il le remet dans l'usine. C'est systématique. Hein. Il remet, parce qu'il n'y a pas de banque à l'époque. Hein. Il faut savoir que quand vous empruntez à un particulier. Alors il a deux personnes qui vont lui prêter de l'argent. C'est un Decheveri qui va lui prêter de l'argent une première fois, parce qu'une première fois, sa première usine va commencer à cramer. Il va lui reprêter de l'argent. Et un monsieur qui s'appelle Puech. Alors ce Puech, il y aurait des recherches à faire. Toujours est-il que c'est son premier voisin quand il était petit et qui habitait à la haute ville, à la maison, je crois que c'est les Tamco qui habitaient là à côté. Il y avait une épicerie à la haute ville. Et c'est un type qui était rentier, tout jeune, 40 ans. Il est rentier à tel point qu'à un moment, enfin, j'ai trouvé un texte comme quoi il donne pouvoir à son employé, qui doit être son employé de maison, hein, pour signer les chèques à sa place, et lui, il va faire le tour du monde. Enfin, les actes notariés, c'est indéfini. Donc,
Zue librian batuz argazkik, marazkik, importante zuzun zuetako hoien agraztia?
Ah oui, tout à fait, oui, parce que ça bat en brèche un petit peu tout ce qui a été raconté, si vous préférez, parce que notamment dans ce livre-là, il est écrit que les espadrilleurs de l'époque ont fait fortune en vendant des espadrilles aux mineurs du Nord. Ils ont vendu des espadrilles aux mineurs du Nord, certains l'ont fait, mais chez Cherbero, j'ai pas trouvé une seule facture ou un seul courrier qui est machin.
Noa txuitensi en ordin.
Eh bien, les catalogues, les grands magasins, il expédie partout, il expédie dans le monde entier. Il a toutes les colonies, l'Égypte, enfin, il est en Algérie, en Tunisie, en Amérique du Sud, c'est fini. On peut plus là-bas, il y a des Basques qui vont fabriquer, là-bas, par contre, mais la France ne peut plus leur vendre. Donc il va vendre à Cuba, il va vendre à Haïti, il va vendre il va en Russie, il va en Ukraine, il va en Belgique. Il va en Suisse, il a des gros clients en Suisse.
Eta lehen gaiak e munduko beste gune bat eta ikorra zututzen.
Oui, les matières premières, elles arrivent du bout du monde, c'est-à-dire que le jute, il arrive d'Inde. Alors là aussi, pas un problème, c'est une belle histoire. C'est que le jute qui arrive d'Inde, c'est des colonies anglaises à l'époque. Donc, monopole. Donc les bateaux, avant que le canal de Suez soit fait, donc le bateau va faire le tour de l'Afrique, remonte, arrive à Londres, et là, il y a des courtiers qui vendent le jute en France. Alors là, il y a donc des courtiers qui sont à Lille ou des courtiers qui sont à Londres et Pascal Cherbero va travailler avec eux. C'est lui qui va être le premier à faire une filature de jute parce qu'il veut maîtriser la totalité. La première chose qu'il va faire, puisqu'il avait de l'électricité, il va acheter des tresseuses pour faire la tresse à espadrilles, mécanique. Donc il achète 16 machines. Ces machines, elles vont venir d'Angleterre. Et donc il écrit, en Angleterre, il écrit 4 ou 5 courriers et il les fait venir. Ces machines vont venir d'Angleterre. Alors, tout ça arrive à l'époque par train, ça arrive à la gare de Montlhéron. Et une fois qu'il a fait ça, il veut faire une filature de jute. Alors cette filature de jute, il y a des Irlandais d'abord qui voulaient lui vendre une filature, et puis en définitive, ça va être les machines électriques vont arriver de Lille, et la filature, c'est des machines de chez Walker à Lille, qui était un gros filateur aussi, qui va lui vendre ces machines. On va envoyer... Il n'y a personne pour ça, qui sait les faire marcher. Donc ils vont essayer de trouver un ou deux ouvriers qui vont pouvoir venir du nord de la France. Alors s'il y a des courriers, je ne sais pas s'ils sont venus en définitive, pour venir faire marcher ces machines. Et une fois qu'il a ça, il maîtrise tout. C'est-à-dire que tout d'un coup, il achète une matière première qui vient d'Inde. Alors il achète il faut savoir que ce sont des bateaux entiers qu'il achète. Il achète... jusqu'à 6 à 8 000 balles de jute. Une balle de jute, ça pèse 185 kg, c'est-à-dire qu'à la gare de Montlhéron, il devait arriver des trains qui... C'est entre 700 et 900 tonnes par an de jute qui arrivent à la gare de Montlhéron. Voilà. Mmh. Et tout ça dans des petits wagons, parce que ce n'est pas les wagons de maintenant. Et quand je vous dis qu'il fallait avoir des reins solides, c'est-à-dire que quand ils payent la marchandise, le bateau qui arrive à Dunkerque, les gens qui lui vendent, qui sont des Grecs qui habitent en Inde, ils se font payer cash à l'arrivée à Dunkerque. La marchandise, ça lui coûte à chaque bateau 120 000 francs de l'époque. Et 120 000 francs de l'époque, c'est le prix que lui a coûté la centrale électrique qui est à côté des abattoirs. Chaque bateau. Donc il n'a pas commencé à faire des sandales quand le machin. Après, en deux jours, le bateau qui arrive de Dunkerque va arriver au port de Bayonne. C'est mis dans les wagons. Puyot, Montlhéron. Et c'est déchargé à la gare de Montlhéron.
Bah, Yordin, change hanchi, haraushten sisul.
Oui, tout à fait, oui. Puis il faut bien entendu, là aussi, bon, je raconte, parce qu'on a raconté qu'il avait fait fortune en achetant la cargaison d'un bateau qui avait brûlé. Et je certifie pas que c'est le bateau, mais je pense l'avoir trouvé parce que l'inventaire commence en 1883, et c'est pile, il est tout seul à ce moment-là, 1883. De 1871 à 1883, c'est-à-dire 12 ans, il est associé avec différentes personnes. Donc, il fait des bénéfices et chaque fois il réinvestit. Il agrandit son usine, il achète des machines. Chaque fois, il va de nouveau s'associer avec quelqu'un, il réinvestit et il refait quelque chose. Chaque fois, toujours. C'est un batailleur terrible. Moi, c'est ce qui m'a bluffé, quoi. Moi, qui est petit préparateur en pharmacie et qui ai peur de mon homme, j'arrive pas à imaginer qu'à cette époque-là, quoi. Il mesure 1m50, il parle pas anglais, mais il va partir à Londres pour signer des contrats, quoi. Et puis à l'époque, tu prends pas Ryanair, tu prends. Il avait une voiture à l'époque. Bon, il s'est fait amener jusqu'à Puyot. De Puyot, il prend le train jusqu'à Bordeaux. Et Bordeaux, il prend un bateau qui va l'amener Dunkerque, Londres. Et il va négocier des gros, gros, gros contrats, quoi. C'est le premier à avoir fait ça.
Et t'as juste qui ordine faire égiter du haut la Beikerketa Soumaïté Guinandoun. Voilà, découvrir-t-il sous Arbachobaten Istoya.
Ben, d'abord beaucoup d'émotions, et puis ensuite une certaine revanche pour mon père surtout. Alors bon, il faut que les gens lisent le livre, ils le comprendront après. Mon père, il a été patron de cette usine, directeur de cette usine, de 1934 à 1954, ça n'a pas été les années les plus faciles. Et l'usine brûle, et ça va être fini pour lui, l'usine ça va être terminé, quoi, si vous préférez. Donc c'est la fin de l'histoire. Hein. Mon père n'en a jamais parlé, il a simplement raconté ses souvenirs, j'en parle un peu. Avec ma mère, ils avaient écrit leurs souvenirs sur ce qui restait de l'usine. Donc c'est grâce à lui que je sais comment marchait la filature. C'est grâce à lui, bon, il s'est un petit peu perdu dans les dates pour les machines et tout ça, mais je retrouve, moi, après, parce que j'ai retrouvé des factures, et donc j'ai tout le cursus, quoi, toute l'histoire. Mais c'est vraiment c'est la seule entreprise moulonnaise, à part les Beguerie, qui aurait duré aussi longtemps. Hein. Ça fait 83 d'histoire de Moulon, 83 ans. Et donc, à la fin, moi, je donne les noms des gens qui ont travaillé pour lui à la maison et les adresses que j'ai retrouvées dans cet inventaire. Donc ce sont des gens qui habitaient partout, hein. Ça va jusqu'à Saint-Engrasse, Larot, dans le Béarn et tout ça. Il y a le nom et les adresses en 1883 et en 1898. Donc il y en a 80 au départ et à peu près 200 à l'après. Et je raconte aussi, je donne aussi le nom des gens qui ont beaucoup travaillé pour lui, qui ont été... je peux citer les Idondo qui ont beaucoup travaillé à l'usine Cherbero pendant très 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 longtemps. Ils ont eu leur grand-père et tout ça qui ont travaillé, les Laxalt qui ont travaillé là, et puis d'anciens industriels qui ont travaillé chez lui. Récalte, par exemple, l'usine Récalte était comptable chez Cherbero. Chiguet, qui a eu une usine avec Angrand plus tard, était employé chez Cherbero. Bideguin, l'ancien maire de Montlion, Jean-Pierre Bideguin, a été comptable pour Cherbero pendant très longtemps et représentant avant d'acheter l'usine qui était à côté, qui s'appelle l'usine Bardos, mais qu'il a rachetée après la mort de Pascal Cherbero dans les années 20.
D'accord. Et ordinaire aiten haldeikus, nunat samaiten haldeugin soe livria.
Alors ce livre, on peut le trouver, je dis chez Ichouregui, mais chez l'ESPI. Chez Ichouregui l'ESPI, puisque j'étais en classe à Ebatitou, chez Tchar, à Chérotte, et à la Maison du Patrimoine, à l'Office du Tourisme.
D'accord.
Et à Saint-Palais, chez M. Borda.